L'improvisation est parfois un peu difficile, mais le Seigneur nous aide toujours dans ces moments, et le tout c'est de vouloir aussi travailler pour lui, faire quelque chose pour lui. Merci pour votre invitation de cet après-midi, et c'est vrai que le temps se prête pour avoir cette réflexion. Peut-être l'avez-vous déjà eue, sûrement d'ailleurs, la semaine dernière, mais j'aimerais que l'on se penche effectivement en cette période de Pâques. Pâques et après. Donc soyez les bienvenus une semaine après Pâques, tout à fait spécial pour les chrétiens et ô combien important, d'une grande intensité émotionnelle, riche en enseignements et en conséquences. Je vous propose une rencontre un peu spéciale cet après-midi, que nous allons démarrer aujourd'hui, que nous continuerons la prochaine fois. Un rappel d'abord, mais aussi la rencontre avec le ressuscité. Nous venons de lire « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Alors je vous invite dans un premier temps à voyager un peu dans le temps et de remonter l'histoire pour mieux comprendre peut-être ce qui a précédé Pâques. Et pourquoi Pâques a eu lieu? Alors d'abord, que veut dire Pâques? Un Pâques, c'est un dérivé d'un verbe hébreu qui signifie « passer outre » dans le sens de « contourner », dans le sens d'épargner. La première fois, les questions de la Pâques se trouvent, et je vous invite à le lire cette semaine, dans Exode au chapitre 12. Nous pouvons voir également que la Pâque s'appelle aussi la fête des pains sans levain. Ce récit nous permet d'une part de constater que Dieu prend soin de son peuple, Dieu, notre Dieu, est bon. Et d'autre part, il est aussi question de purification et de souvenir. Pâque est une fête en souvenir de la protection de Dieu. C'est une fête qui n'avait pas de signification, enfin qui n'avait de signification, pardon, que si elle était accompagnée de sacrifices vivants, d'animaux purs. Dans Deutéronome au chapitre 16, les versets 1 à 2, on peut lire ceci. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire régner son nom. Et puis après, quelques versets plus loin, il est aussi question de la fête des semaines et puis de la fête des tabernacles. Il y avait donc trois grandes fêtes à célébrer en souvenir de toutes les bénédictions de Dieu envers son peuple. Donc, la Pâque a été instituée en Égypte pendant la période de captivité du peuple pour commémorer la délivrance du peuple de Dieu, la nuit où, souvenez-vous, tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts. Mais, où Dieu a épargné son peuple. Car souvenez-vous, qu'avait-il fait? Quelle avait été l'action à faire, la marque à faire? Ça avait été de mettre du sang sur les liteaux de la porte. Ainsi, l'esprit de mort reconnaissait que cette maison était consacrée et vouée à Dieu. Et nous pouvons dire aussi que malheur à ceux qui n'avaient pas pu mettre ou qui n'avaient pas voulu mettre ce sang sur la porte. Sur les liteaux des portes des maisons des Israélites était répandu le sang d'un agneau pur pour que la mort ne frappe pas les habitants de cette même maison. Et pendant cette nuit, un repas accompagnait cette fête. L'agneau égorgé était rôti, il était mangé avec des pains sans levain, ce qui représentait la pureté. Et avec aussi des herbes amères, représentant aussi la souffrance que le peuple éprouvait. Et pourquoi on parle de Pâques encore aujourd'hui? Et je vous invite à parler de Pâques aujourd'hui. Ben parce que la fête de Pâques durait 7 jours, pendant laquelle le peuple d'Israël offrait régulièrement des animaux en sacrifice d'action de grâce. Voici l'histoire de la Pâque pour le peuple d'Israël, symbole donc de délivrance, de vie, de pureté, de sacrifice. Voilà quelle était la signification de la première Pâque. Et cela d'ailleurs aurait pu durer éternellement pour le peuple d'Israël qui célèbre rituellement de nos jours encore et de manière traditionnelle la Pâque. Mais voici, il y a aussi et il y a eu aussi Jean 3,16. Et la Pâque allait prendre une nouvelle et une autre dimension, car là, la grande nouveauté, si je peux me permettre, c'est que cette Pâque n'allait plus être réservée au peuple de Dieu uniquement, mais à l'humanité tout entière, d'une part. Et d'autre part, ce n'est plus l'homme, nous, qui allions offrir des sacrifices, mais c'est Dieu lui-même qui allait s'offrir par Jésus en sacrifice. Voilà pourquoi Jésus est venu, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus allait être le sacrifice vivant, l'agneau pur. Citons Ésaïe, vous savez le prophète Ésaïe, tellement inspiré par la naissance et la venue de Jésus. Souvenons-nous ce qu'il a écrit dans Ésaïe au chapitre 53 et au verset 7. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Qui d'autre que Jésus aurait pu avoir cette attitude? Et puis dans Jean, au chapitre 1er et au verset 29, là aussi nous pouvons lire, le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis dans 1 Pierre, au chapitre 1er, les versets 18 à 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. On retrouve bien la corrélation entre la Pâque juive, de l'Ancien Testament et la Pâque d'aujourd'hui. Cela nous rappelle, par la même occasion, que Jésus est sans défaut et sans tache. Et c'est vrai. Qui mieux que Jésus pouvait se taire devant des traitements aussi difficiles? Qui mieux que Jésus pouvait être trouvé sans péché, pur comme un agneau? Qui aurait pu prendre sa place, même parmi nous, cet après-midi? Jésus seul était pur. Son sang versé sur la croix a servi de signe pour tous ceux qui ont voulu et qui veulent s'y purifier. Et comme le symbole du sang répandu sur les liteaux de la porte, à chacun le libre accès, la libre possibilité de le faire la même chose. C'est de symboliquement de mettre le sang de Jésus en protection de notre vie. Pourtant, vous savez, à cette époque-là, mourir sur une croix était considéré comme une malédiction pour les hommes. C'était le pire des châtiments, mourir sur une croix. Une infamie même pour celui à qui cela arrivait. Le condamné avait les mains percées et souvent les pieds. Et pour que le... On va rentrer dans un petit détail. Pour que le condamné meure plus rapidement sur la croix, on le battait d'abord pour l'affaiblir. Et ensuite, il devait porter sa croix en signe d'humiliation. Il n'était pas rare même que l'on lui brise les jambes pour qu'il ne résiste plus. Parce que le peuple voulait bien sacrifier, mais il ne fallait pas que le supplicié dure trop longtemps. On voulait bien assister au spectacle, mais il ne fallait pas que le film dure toute la nuit. On brisa les jambes des voisins de Jésus, des deux brigands à côté. Mais pas Jésus. On n'a pas brisé ses os. Jésus était déjà mort. Et aucun de ses os n'a été brisé, selon les Écritures. Et puis, la mort de Jésus est donc constatée. Alors on pourrait dire que peut-être l'histoire s'arrête là, mais l'histoire, aussi terrible soit-elle, ne s'est pas arrêtée là. Jésus est mort sur la croix, certes, mais il est ressuscité. Et ce n'était pas une fin en soi, mais bien au contraire, le commencement d'une nouvelle vie, d'un nouvel espoir, d'une nouvelle espérance, car l'Esprit de Dieu allait remplir les cœurs. Jésus est mort, mais il est ressuscité. La Pâque est accomplie. Le sang de Jésus versé sur la croix a écarté la mort de notre âme. Pour ceux qui l'acceptent, bien sûr. Le corps retournera à la terre, mais notre âme ira vers son Créateur. Pourtant, elle n'est pas évidente, cette résurrection. Même si elle avait été annoncée dans l'Ancien Testament déjà. Jésus lui-même avait averti ses disciples sur le déroulement de la fin et de la commencement de son histoire. Jésus, le bien-aimé, est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort, il a pris nos péchés. Jésus-Christ ressuscité est pour nous chrétiens la base même de notre foi. On peut lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15, les versets 12 à 19, on peut lire ceci. Une réflexion assez pertinente. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Parce que s'il n'y a point de résurrection des morts, donc Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, ben notre prédication, est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Hein, c'est un petit peu, comme on dit, tourner dans tous les sens la question et l'explication, le ni et le déni, mais c'est de revenir à cette constatation que, ben oui, l'annonce de la parole, c'est Christ est mort, mais il est ressuscité. Car si les morts ne ressuscitent point, eh bien Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans le péché. Par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Voilà, voilà ce que dit Paul dans 1 Corinthiens. Dieu a ouvert les bras sur nous tous, sans distinction de race, de couleur, de constitution, sans distinction de peuple. Nous sommes tous égaux devant lui. Voici le miracle de Pâques. Nous n'avons rien à apporter en sacrifice, nous, maintenant. Rien à offrir à Dieu. Que notre être, tel que nous sommes. Et vous savez, notre être, notre corps est bien complexe. Alors j'ai trouvé une petite étude qui montre quel potentiel habite dans notre corps. Alors je vais vous le délivrer en quelques instants, en quelques chiffres. Alors savez-vous ce que les études disent ce que nous accomplissons en 24 heures? C'est une moyenne, hein, bien sûr, hein. Environ 103 689 battements de cœur. Environ 268 millions de kilomètres parcourus par notre sang dans nos veines, nos artères et ainsi de suite. Hein? Nous respirons à peu près 23 040 fois. Inspiration, expiration. Et par là même, nous inhalons 14 mètres cubes d'air. Nous nous ingurgitons à 1,5 kg à 2 kg de nourriture, 3 litres de liquide absorbé, 1 litre de sueur, et notre corps a la faculté de maintenir sa température à une moyenne de 37 degrés par tous les temps. On est capable de produire 450 tonnes d'énergie. De prononcer 4800 mots. Là, en ce moment, j'en prononce peut-être un petit peu plus que vous, hein. Mais après, vous allez vous rattraper. Et on remue 700 muscles dans notre journée de 24 heures. Et on utilise, et là, il paraît qu'on n'en utilise pas beaucoup, mais on utilise quand même 7 millions de cellules cérébrales. Et on peut parcourir jusqu'à 11 kilomètres à pied. Voilà. Mais en dépit, ce qui est important à souligner, ce qui est intéressant même à souligner, c'est qu'en dépit de cette complexité, de toutes ces nuances qui fait que nous sommes différents, mais le Seigneur nous connaît dans nos moindres recoins. Cette complexité-là n'arrête pas notre Dieu. Il nous a sauvés pour ce que nous sommes. Tel que nous sommes. Sa résurrection nous ouvre les portes de la réalité de l'existence de notre vie. Et la simplicité de notre démarche, c'est d'accepter le Seigneur comme notre Sauveur. Il est ressuscité pour chacun de nous. Ça, nous devons le croire. J'ai lu sur votre petit feuillet en vietnamien, une partie en français. Justement, parce que là, je finis cette première réflexion avec Thomas. Et bien, vous savez, malheureusement aussi, les disciples qui étaient pourtant proches de Jésus n'ont pas été plus proches que les disciples de Jésus. Ils ont connu Jésus. Ils ont vu ce qu'il était capable de faire. Ils ont entendu ce que Jésus pensait. Jésus leur a expliqué pourquoi il était venu, comment il allait mourir sur cette croix, mais comment il allait aussi ressusciter. Et malgré ça, tous les disciples n'y ont pas cru de suite. Ils étaient encore incrédules et n'avaient sûrement pas imaginé la dimension des paroles que Jésus avait prononcées. Jésus est ressuscité et que s'est-il passé? Je vous invite juste à lire ensemble ces quelques paroles dans Jean au chapitre 20, les versets 27 à 29, parce qu'il se présente à ses disciples, Jésus, parce qu'il est ressuscité. Et Thomas avait dit, oh, moi je n'arrive pas à croire ça, je ne peux pas croire, c'est pas possible. Alors Jésus s'avance vers Thomas, il lui présente ses mains et lui dit, regarde mes mains, avance ici ton doigt, touche. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, touche. Alors là tu peux constater que tu as été incrédule et que c'est bien moi qui suis présent devant toi, moi Jésus, le ressuscité. Et alors Thomas est confondu. Et là, il ne peut que s'exprimer en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole cet après-midi et puis nous continuerons la prochaine fois, qu'est-ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus, avant que Jésus ne parte auprès de son Père? Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions nous-mêmes réaliser ô combien ce qui s'est passé en cette Pâque est important pour l'humanité et pour nous-mêmes. Amen.